Donc nous allons reprendre avec juste un léger décalage et nous allons commencer cette table ronde intitulée « Le bac pro en 3 ans, la nouvelle réussite des lycéens ?» Point d'interrogation. Alors vont intervenir Monsieur Abès Souache, qui est inspecteur de l'enseignement général dans l'Académie de Lyon et qui est inspecteur en lettres histoire. Ensuite interviendront Madame Perroux, proviseur du lycée Marie Curie, et Madame Verpia, qui est chef des travaux du même lycée. Et ensuite, Monsieur Bernard Javot, qui est proviseur adjoint du lycée Lamache, toujours à Lyon. Alors là, nous allons redescendre, nous allons avoir un point de vue plus local, donc de la réforme du bac pro, avec une dimension académique et puis, j'allais dire, une dimension encore plus micro, celle des deux établissements qui sont représentés. Voilà, donc je vous laisse la parole.
Je serai court, de toute façon, oui. Je serai court, bonjour à tous. Enfin, nous serons courts, je crois, bonjour à tous. Donc, Abès Souache, inspecteur de lettres histoire en charge de l'histoire-géographie dans l'Académie de Lyon. Et donc, un zoom local, enfin en tout cas académique, un zoom disciplinaire. Je vais vous proposer donc une réflexion, quelques éléments de réflexion sur la rénovation, la réforme du bac professionnel, en revenant très rapidement sur, d'une part, certains points qui me semblent importants, sur lesquels il me semble important de revenir, d'insister sur le plan organisationnel. Ensuite, en m'attachant aux résultats du bac professionnel, session 2012, puisque la première cohorte est sortie cette année en juin 2012. Première cohorte à qui a été offert la possibilité donc de poursuivre des études, en particulier en BTS, ce qui n'est pas sans poser les problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure. Et enfin, une approche plus strictement qualitative, disciplinaire, en changeant à nouveau d'échelle, donc un zoom disciplinaire sur l'enseignement de l'histoire-géographie et les résultats tels que j'ai pu les analyser à partir donc de mes visites, de nos visites avec ma collègue Catherine Lambollet, qui est en charge plus particulièrement des lettres, à partir de l'analyse d'un échantillon de copies de certification intermédiaire et de bac professionnel, environ 200 copies, et des informations qui nous sont apportées par les formateurs ou par les enseignants. Alors, un mot quand même pour revenir sur des choses qui ont été dites, mais sur lesquelles il me semble intéressant d'insister. Donc, le bac pro 3 ans, ce sont de nouvelles grilles horaires, une marge forte d'autonomie pédagogique laissée aux établissements, et des dispositifs nouveaux qui ne sont pas sans poser des difficultés à l'échelon national, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, comme à l'échelon académique. Alors tout d'abord, l'enseignement général lié à la spécialité, dont vous savez sans doute qu'il est réservé à certaines disciplines, le français, les mathématiques, sciences physiques, l'anglais, les arts appliqués. Le GLS est destiné, comme son nom l'indique, à tisser du lien entre les enseignements, à conforter donc une formation globale de l'élève et de faire contribuer, ce qui n'est pas aisé, les disciplines d'enseignement général à la professionnalité. Alors l'exemple du nouveau bac GA a été évoqué, je vais aller très vite, simplement ce qui était très intéressant, et c'est que le professeur de français doit peu intervenir dans le référentiel tel qu'il est expliqué. Le professeur de français peut intervenir donc dans un atelier rédactionnel dans le cadre d'une situation professionnelle qui est définie par son collègue d'économie-gestion à partir du référentiel propre à cette discipline. Un travail commun autour du scénario pédagogique est recommandé, qui est indispensable pour la construction des activités de l'atelier. Ces éléments, ce que je viens de dire, c'est que c'est ce qui est ressorti du séminaire qui a eu lieu l'an dernier, qui a été organisé à Lyon en mai dernier, qui a donné lieu à l'élaboration d'une charte. Deuxième dispositif qui doit impliquer une pédagogie différente, en tout cas qui doit permettre de travailler un certain nombre de compétences en sortant du cadre disciplinaire, l'accompagnement personnalisé, 210 heures, à répartir sur les 84 semaines du cycle 3 ans, l'objectif étant donc d'individualiser le parcours de l'élève et de lui permettre d'améliorer son niveau dans les disciplines fondamentales, d'obtenir aussi une aide méthodologique ou de préparer une nouvelle orientation en approfondissant un champ disciplinaire. Il faut rappeler aussi l'introduction de la certification intermédiaire, obligatoire pour les élèves de LP, étape dans le parcours de l'élève, et l'introduction de manière beaucoup plus massive qu'auparavant du CCF, du contrôle en cours de formation, en certification intermédiaire et en bac professionnel, si ce n'est en français et en histoire-géographie, qui sont restés systématiquement sous la forme ponctuelle. Alors, quelques éléments de bilan chiffrés, en insistant sur le fait qu'il est quand même encore tôt pour dresser un bilan approfondi. La réforme bien entamée, importante, étant récente, une seule cohorte a achevé le parcours bac pro 3 ans. Alors, à l'échelle académique, ce que l'on peut relever, c'est que l'effet bourrelet qui a été évoqué à l'échelle nationale tout à l'heure a joué à plein en 2012, le nombre de candidats ayant très largement augmenté par rapport à la session précédente, ce dans la mesure où les derniers élèves qui étaient inscrits en bac pro 4 ans ont passé le bac en même temps que la première cohorte inscrite en parcours 3 ans. Donc les chiffres, 7794 candidats au bac professionnel en 2011, de 9822 en 2012. Alors concernant les résultats, ils sont en baisse par rapport à l'ancien bac, à l'échelle académique, du moins par rapport à la session 2011. Alors pour être plus précis, 85,6% de réussite au bac professionnel pendant la session 2011, 79% de taux de réussite en 2011. Les chiffres à l'échelle nationale ont été évoqués, donc 84% et 78% pour ce qui est de 2011 et de 2012, ce qui donc montre que les moyennes à l'échelle académique sont supérieures de celles de l'échelle nationale. Alors, ces chiffres doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des moyennes. Il faut aussi prendre compte les métiers. Dans ce que l'on nomme les services, la baisse est inférieure à celle du domaine de la production. En 2011, 89,2% de taux de réussite pour la production, 74% en 2012, 87,9% en service en 2011, 83% en 2012. Autre chose qui est à mon sens importante, c'est l'historien sans doute qui parle, cette baisse s'inscrit dans une évolution qui est déjà enclenchée depuis quelques années lorsqu'on observe les pourcentages de réussite depuis 2007. L'on s'aperçoit que ces chiffres sont en baisse depuis 2009, qui était une année exceptionnelle. 88,5% de réussite en 2009, 86,9% en 2010, 85,6% en 2011 et donc 79% en 2012. L'on revient donc peu ou prou aux chiffres de 2007, qui était de 80% de taux de réussite, avec un nombre beaucoup moins important de candidats, puisqu'on en avait 5769. 5769 donc en 2007, 9822 en 2012. Quant à la certification intermédiaire, qui n'est pas un palier de sélection, mais qui doit permettre de sécuriser le bac pro, le parcours en 3 ans, en particulier pour les élèves les plus fragiles, cette certification peut prendre la forme d'un CAP ou d'un BEP, un BEP rénové, et globalement les taux de réussite, selon les chiffres qui m'ont été communiqués par le SPS de Lyon, par le service prospective et statistique, alors les taux de réussite à la certification intermédiaire donc sont de l'ordre de l'ancien BEP. En 2012, dans l'académie, à 79,7% pour le BEP rénové, 86,2% en CAP. En CAP, le flux des candidats est très faible, et beaucoup plus faible qu'en BEP rénové. 676 candidats en 2012, et les résultats sont en légère augmentation, 87% de reçus en 2012. Alors, l'enquête de l'inspection générale qui a été réalisée, qui a donné lieu, donc est disponible d'ailleurs sur le site de l'inspection générale, ainsi que les deux sessions, ce que l'on a pu observer, les échanges entre collègues, entre inspecteurs, avec les enseignants aussi, montrent que cette certification qui pose question, donc, donne lieu à une réflexion sur son évolution, elle est ressentie très largement comme lourde à organiser par les chefs d'établissement, lourde à organiser par les enseignants qui ne perçoivent pas toujours l'articulation entre cette certification intermédiaire et le bac professionnel. En revanche, pour les élèves, elle fait sens, elle a une valeur psychologique et symbolique non négligeable, elle constitue une étape, un repère, tout cela conduisant à réfléchir sur la meilleure articulation possible, justement, entre cette certification et le bac. Alors, je vais changer d'échelle à nouveau, cette fois, et d'approche en me consacrant à une discipline, l'histoire-géographie, dont il faut se souvenir qu'elle est enseignée par des professeurs qui sont dits bivalents, qui enseignent les lettres, l'histoire-géographie, donc trivalents, voire même quadrivalents, puisqu'ils enseignent également l'éducation civique. La réforme a donné lieu à une complète réécriture des programmes. Programme de bac professionnel de 2009, programme de CAP qui a été modifié en histoire-géographie en 2010, et enfin programme de troisième prépa pro, de troisième à dispositif particulier, en 2012. À la refonte des programmes a correspondu une refonte des certifications. L'originalité, si je puis dire, des lettres et de l'histoire-géographie, c'est qu'elle donne lieu à des examens ponctuels, donc en bac pro lors de la certification intermédiaire également, et en troisième, puisque les élèves passent le DNB. En CAP depuis 2003, l'épreuve est sous forme de contrôle en courte formation. Alors les nouveaux programmes sont exigeants, et ils ont été l'occasion d'une forte impulsion en matière d'évolution des pratiques pédagogiques. Leur écriture a été précédée par plusieurs temps forts collectifs d'analyse des pratiques pédagogiques qui ont été pilotées par l'inspection générale. Dès 2007, un bilan a été effectué, un rapport a été publié. Bilan qui a permis de cibler les évolutions de pratiques qui étaient souhaitables et de les articuler au mieux avec le bac pro 3 ans dont l'exigence est connue de tous. En histoire comme en géographie, il a été décidé de mettre l'accent sur l'apprentissage de techniques d'analyse approfondie de documents, ainsi que sur l'écriture des élèves. En effet, il apparaissait que notre enseignement était de plus en plus souvent caractérisé par ce que l'on peut nommer un émiettement documentaire, un éparpillement documentaire, les documents étant essentiellement utilisés comme des sources d'informations, support donc de la leçon, sans donner lieu à une analyse, sans que l'on réfléchisse sur l'enjeu des messages qui y sont délivrés. À cela s'ajoute une volonté de recentrer les apprentissages vers ce qui fait l'essence même des disciplines, à savoir l'ancrage de la réflexion dans le temps et la périodisation en histoire, l'ancrage de cette réflexion dans des échelles différentes, dans une approche multiscalaire en géographie. Enfin, accent a également été mis sur la nécessité de travailler à nouveau sur les repères historiques et géographiques qui permettent aux élèves de se construire une culture commune, de travailler donc à nouveau de manière plus systématique qu'auparavant sur la mémorisation des lieux, d'acteurs et de dates essentielles à l'échelle mondiale, européenne et française. C'est dans ce sens que les certifications ont été repensées. Elle laisse la place en particulier à l'écriture de développement construit, sans appui documentaire donc, aussi à l'analyse d'un nombre réduit de documents, et cela est une constante finalement de la troisième au bac pro, document où l'élève doit chercher, par une série de questions progressives, doit chercher un certain nombre d'informations qui doivent lui permettre progressivement d'en proposer une ébauche d'interprétation. Le défi est donc important et les enseignants ont été confrontés à un changement de pratique qu'il leur fallait donc acter. Dans l'Académie de Lyon, ils ont été accompagnés sous la forme d'un certain nombre d'animations, de formations, qui, contrairement aux années précédentes, ont porté justement sur ces apprentissages. Comment faire plus écrire les élèves, comment faire écrire les élèves, les amener à produire un discours organisé, un développement construit, c'est le terme de la des certifications, dans les disciplines en histoire et en géographie. La première session du bac en 2012 montre qu'en dépit de ces exigences relativement nouvelles, les résultats n'ont pas subi de baisse spectaculaire en histoire-géographie. C'est beaucoup moins vrai en lettres, où la baisse est plus importante. Et ce alors que le nombre de candidats, évidemment, est beaucoup plus important que l'année précédente. Les moyennes en 2011, 10,55 de moyenne, en 2012, 10,26. Alors évidemment, ces moyennes doivent être déclinées selon les métiers, puisque les informations ne sont pas les mêmes. Dans les métiers du service, la moyenne académique est proche de celle de l'année précédente, et l'amplitude entre les spécialités n'est pas très marquée. En revanche, dans les métiers de la production, la baisse est plus importante, moins 0,54%, et l'amplitude plus marquée. Sur le plan qualitatif, il apparaît que les élèves ont été bien entraînés à cette nouvelle épreuve. Très peu d'élèves, dont les copies qu'on a pu analyser, ne répondent pas à une ou à une autre des questions posées. Un nombre infime d'entre eux, en fait, ne répondent pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils réussissent mieux qu'en histoire, qu'en géographie, qu'ils réussissent mieux en études documentaires qu'en expression longue, ou plutôt en expression sans appui documentaire, qui consiste en une consigne à laquelle les élèves doivent répondre, une consigne sur un thème donné, les élèves doivent répondre en un certain nombre de lignes, qui n'est pas indiqué d'ailleurs, de manière libre. Les candidats ne rechignent pas à écrire en quantité, même si les situations sont très contrastées selon les spécialités. Les candidats de la production, en particulier, écrivent beaucoup moins que ceux du service. Ils essaient généralement de rédiger un texte organisé, mais leurs textes ne sont que peu ancrés dans les disciplines, dans le temps en histoire, dans l'espace en géographie. Et globalement, c'est en matière disciplinaire, sur le plan plus strictement disciplinaire, que le bas blesse le plus, en particulier, les élèves manient peu le vocabulaire disciplinaire, font peu appel aux connaissances qui leur permettent de développer un discours ancré dans le temps ou dans l'espace. Alors, on le voit, je vais conclure là-dessus, en fait, la réforme pose un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués tout à l'heure. Je vais retenir surtout le saut qualitatif qu'elle représente aussi, et un saut qui me semble désormais acté par les enseignants, compris par les enseignants, qui ont pu de prime abord être quelque peu déboussolés par l'ampleur des nouveautés. Alors, acté, mais cela ne signifie pas qu'ils aient pris la mesure de la nécessité de travailler différemment. J'ai parlé de le GLS, de l'accompagnement personnalisé, qui pose un certain nombre de soucis sur le plan organisationnel, qui ont été évoqués, l'utilisation des heures. Sur le plan des pratiques également, elle pose des questions, puisque le poids des représentations étant ce qu'il est, vous savez que les représentations évoluent peu, les pratiques évoluent également, mais finalement dans la durée. Et l'un des enjeux fondamentaux est donc de travailler des compétences dans une autre perspective, dans un autre cadre que strictement disciplinaire, et cela, c'est encore en partie à construire. Les pratiques évoluent, c'est une réalité. On constate cette année, d'ailleurs, nos visites nous permettent de voir que les professeurs dans les disciplines que nous gérons, que nous pilotons avec ma collègue sur le plan académique, eh bien, nous voyons que les collègues ont fait évoluer leur pratique tout spécialement en fonction de la certification. En revanche, l'ancrage disciplinaire, et cela renvoie à la question qui a été posée tout à l'heure, celle de la place de l'enseignement général dans l'enseignement professionnel, l'ancrage disciplinaire demeure important. Je vous remercie.
Monsieur Zouache, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est que si les intervenants ont quelques questions...
Oh, j'ai juste une question. Je sais pas si... Pourquoi les lettres histoire sont quasiment la seule matière qui n'est pas passée en CCF? Y a-t-il une réponse officielle?
Moi, je n'ai pas de réponse.
C'est le poids du lobby disciplinaire, non?
Non, je n'ai pas de réponse. Simplement des informations qui nous avaient été délivrées parfois lors de réunions, et il nous semble que c'est une décision qui a été prise. Alors, je ne sais pas, Monsieur Michel, vous avez des informations peut-être. Bon. Mais c'est un fait. C'est un fait. Alors, cela ne renvoie pas forcément à une réticence du par rapport au CCF. Puisque en CAP en particulier, en histoire, géographie et en lettres, le CCF a été acté en 2003 et qu'il fonctionne, je crois, plutôt bien, en tout cas dans l'académie.
Nationaux, etc., sans doute plus fortes. Et on perçoit ça d'ailleurs dans la culture des professeurs quand on les rencontre. Un peu cet attachement quand même à l'épreuve ponctuelle. Encore une fois, je parle du bac, hein, et encore plus du diplôme intermédiaire. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de loi non plus intangible et que les choses peuvent éventuellement évoluer. En tout cas, ce qui a été relevé, c'est l'anachronisme des choses. C'est vrai que les élèves nous ont dit, mais pourquoi effectivement il y a cette épreuve ponctuelle? Ce que l'on va étudier également, c'est en termes de notes et la participation des disciplines, ça va être l'objet du rapport de cette année. On va regarder les notes obtenues dans toutes les épreuves au baccalauréat professionnel pour avoir épreuve par épreuve, donc modalité d'épreuve par modalité d'épreuve, l'impact sur la réussite ou pas. Voilà, pour un peu certains s'interrogent sur l'épreuve ponctuelle, est-ce qu'elle sert ou pas à la réussite des élèves ou pas, ça c'est une vraie question, mais on va voir ça dans le rapport de cette année, quoi.
En tout cas, à l'échelle académique, donc c'est un peu le sens des résultats qui des résultats, des premiers résultats que nous avons. L'épreuve ponctuelle en histoire-géographie n'a pas pénalisé plus que cela les élèves.
Bonjour à tous. Donc, Madame Perroux, proviseure du lycée des métiers du commerce et du service à la personne, Marie Curie, à Villeurbanne. Là, je vais peut-être pas trop m'attarder sur les résultats au bac professionnel, étant donné que nous, on a eu une énorme modification dans les structures de l'établissement, et avec une seule année de recul, c'est pas très parlant. On peut dire que dans l'ensemble, les bacs professionnels que nous avions et les bacs professionnels actuels ont à peu près une petite perte de résultats, mais c'est ce que disait monsieur Zouache, il y a à peu près 5% de moins pour 2012 par rapport à 2011. D'autre part, moi, ce que je vais plutôt souligner, c'est un petit peu les modifications qu'il y a eu dans les enseignements du lycée professionnel. Alors, on a déjà bien entendu parler qu'il y avait eu un changement de profil des élèves, puisqu'on a des élèves qui sont à la fois plus jeunes et moins mûrs que précédemment, ce qui entraîne aussi également moins de décrochage. On a beaucoup moins de décrochage en ce qui concerne notre établissement, en tout cas, puisque les élèves sont un petit peu plus dans le rythme scolaire. Je pense que c'est une des explications qu'on peut avancer. Ce qui a aussi beaucoup changé dans l'organisation même de l'établissement scolaire, c'est le fait que les élèves ont à présent 22 semaines de stage à faire sur les 3 années de formation, alors qu'avant, ils avaient 19 semaines à faire sur 4 ans. Donc là, vous voyez que la quantité qui se fait à l'extérieur de l'établissement est beaucoup plus importante pour la durée plus courte. Donc, les enseignants, pour avoir un contenu équivalent en 3 ans par rapport aux 4 ans, ont l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Et puis également, ils se retrouvent avec les CCF à organiser constamment. Donc, c'est vrai qu'ils ont une impression d'être obligés de toujours courir dans le nouveau bac professionnel. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est quand, par exemple, pour avoir un BEP, il fallait précédemment à nos élèves 3 semaines de stage simplement. Puisque nous, on est dans la partie tertiaire, il n'y avait que 3 semaines à réaliser sur 2 ans. Et maintenant, ils ont 6 semaines à faire sur 1 an. Donc, vous voyez que là, la différence est assez énorme et que... On doit avoir la première partie de la certification intermédiaire se fait en fin de seconde. Donc vous voyez que là, il y a des problèmes d'atteindre les objectifs du programme, quoi. Ensuite, en ce qui concerne les parcours individuels des élèves, les élèves qui ont choisi une filière ont un petit peu l'impression d'être piégés dans cette filière. Les passerelles sont nettement moins faciles qu'avant. Il n'y a pas de possibilité de réorientation en fin de seconde ou fin de première. Une fois qu'ils ont choisi une filière, ils sont obligés de la garder. On reparle beaucoup des passerelles pour des élèves de seconde générale ou de première générale. Mais c'est bien évident que pour des élèves, c'est ce que disait Monsieur Michel tout à l'heure, les élèves de lycée professionnel ont peu de passerelles dans l'autre sens. Ils ne peuvent pas aller en technologique ou en général. Il n'y a plus de classe d'adaptation. Donc là, ils se retrouvent un petit peu piégés dans leur section. Et quand on parle également de passerelles pour les élèves de seconde générale, il faut bien voir aussi que ces passerelles sont toujours soumises au fait que l'on ait des places en première pro, ce qui est quand même assez rare. Enfin, ça dépend des sections, bien évidemment, mais dans le tertiaire, c'est vraiment très rare. Parce que quand on a 24 élèves en seconde, ces 24 élèves montent en première, et donc il n'y a aucune place de disponible, donc aucune passerelle vraiment possible. Donc là, c'est un petit peu les limites du système des passerelles tel qu'il nous est proposé. Voilà. Et puis la dernière chose, eh bien, je vais parler un petit peu de l'intégration des élèves de bac pro en BTS. C'est vrai que pour nous, c'est pour l'instant vraiment à la marge, parce qu'il y a quand même une certaine différence de manière de travailler entre le bac pro et le BTS. Nos élèves n'ont pas le rythme de travail du BTS et ils se retrouvent mélangés avec des élèves qui viennent soit de général, soit de technologique. Et c'est vrai que là, il y a une fracture qui est assez importante et que pour arriver à suivre vraiment en BTS, ça leur pose de gros problèmes. Et très peu réussissent vraiment en BTS pour l'instant. Alors, et d'autant plus que bon, les meilleurs sont admis en BTS, hein, puisque s'ils ont une mention très bien ou bien, ils ont des facilités pour rentrer en BTS. Mais même ceux-là, il faut vraiment qu'ils le veuillent. Il faut qu'ils s'accrochent pour arriver à réussir en BTS. Voilà, donc je répondrai plus facilement aux questions si vous avez d'autres questions. Je vous ai dit là l'essentiel de ce que j'avais comme remarque. Si Madame Verpilla veut ajouter des choses.
Moi, je ne veux pas ajouter grand-chose. Simplement, nous, on avait au niveau de la certification intermédiaire, lors de notre premier passage de certification intermédiaire, on avait eu des résultats qui étaient, on va dire, pas très bons. Et c'est vrai que ça avait quand même permis à tous les professeurs et aux élèves, on a remobilisé les élèves, puisqu'on avait eu à la certification intermédiaire 70% de réussite. Et finalement, au bac, on est arrivé à 100%. Donc ça, c'est... Mais on n'a qu'un an de... C'est vraiment à la marge, puisque nous n'avons qu'un an de recul, hein. D'accord. Moi, au niveau des bacs, moi, je voulais ajouter quelque chose. Nous, on a un bac à SSP. Donc, ce bac à SSP, pour l'instant, on n'a aucun recul, puisque la première session aura lieu, session 2014. Et c'est vrai que, par contre, nos élèves, avant, on avait quand même beaucoup d'élèves qui, à la fin du BEP, carrière sanitaire et sociale, avaient la possibilité de partir pour rejoindre une première ST2S, section, donc une première technologique. Là, maintenant, ça ne se fait plus. On va voir un peu ce que ça va donner. C'est parce que les meilleurs, c'est vrai que les meilleurs étaient motivés. Là, pour l'instant, on analyse, on les sent pour certaines un peu déçues. On va voir, puisqu'on n'a aucun recul, puisque le bac se passera en 2014. Et là, c'est un vrai...
ASSP. Accompagnement, soins et services à la personne.
Voilà. Je voulais vous parler, j'ai entendu, vous parliez beaucoup de l'EGLS, de l'accompagnement personnalisé. Moi, je dirais que les pratiques évoluent quand même, mais ça dépend tout des équipes. Je crois qu'on ne peut pas faire une généralité sur un établissement parce que même à l'intérieur d'un établissement, on a des équipes qui sont totalement... Enfin, pour moi, personnellement, je pense que Madame le proviseur pense la même chose. On a des équipes qui évoluent, qui sont très différentes. Il s'agit qu'on ait dans des équipes un enseignant moteur ou deux et vous avez vraiment quelque chose qui change en fonction des classes.
Oui, simplement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Collège des inspecteurs des IUN, donc de l'Académie de Lyon, a mis en place un protocole de visite, justement, des établissements qui visites qui sont en cours, qui donnera lieu à un bilan sur l'accompagnement personnalisé dans l'Académie de Lyon en enseignement professionnel. Deuxièmement, ce qui vient d'être dit est très juste. J'ai tout récemment animé deux réunions d'équipe dans deux établissements différents portant sur l'enseignement professionnel, l'accompagnement personnalisé. Et bien sûr que les cultures locales, les équipes, les impulsions, etc. sont fondamentales.
Moi, je veux pas rajouter. En tant que chef de travaux, je peux quand même dire une chose, c'est que les PFMP... nos élèves sont effectivement de plus en plus jeunes et on a en plus de plus en plus d'entreprises, même en tertiaire, même en sanitaire et social, qui ferment les portes aux moins de 18 ans. Et là, ça va devenir un vrai, vrai problème. Parce que quand on commerce, on ferme aussi aux moins de 18 ans. Moi, je me demande comment on va faire parce que c'était en plus des chaînes, enfin des chaînes qui étaient très intéressantes au niveau formation de nos élèves. Mais ça, je pense que ça touche hélas... tout le monde. Alors j'imagine qu'en industriel, ça doit être encore pire.
Donc merci pour ces informations du lycée Marie Curie. On ne va pas changer l'organisation. Quelques réactions par rapport à ce qui vient d'être dit de la part des intervenants. Sinon, pas de réaction. Non, alors je propose à monsieur Javot du lycée Lamache.
Réaction, c'est qu'on partage un peu les mêmes soucis. Quoi. Voilà. Je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit aussi par monsieur Michel. Dans la conférence première. Donc Lamache est un lycée, c'est une sorte de campus. C'est un ensemble scolaire qui comprend un lycée professionnel, un lycée technologique, avec des classes de BTS et puis des formations supérieures, style licence pro. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous, on n'a pas de recul par rapport au bac pro, ancienne formule. Pourquoi ? Parce que l'établissement était dans une configuration pédagogique un peu particulière depuis une trentaine d'années, à savoir que nos élèves, en fait, dans l'établissement, faisaient un parcours de bac technologique en 4 ans, avec 2 ans de BEP, puis première adaptation et terminale. Donc dans l'établissement, nous n'avions pas de bac pro, enfin de terminale pro, de première et terminale pro après le BEP, et nous n'avions pas de seconde générale et technologique. Donc là, il y a une reconfiguration complète de l'établissement au plan pédagogique avec les deux réformes, à la fois du bac pro et également d'ailleurs du bac technologique. Donc maintenant nous avons deux filières, une filière bac pro 3 ans et une filière STI 2D, filière technologique à partir de la seconde. Donc au niveau des résultats, il n'y a pas de comparatif. Hein, donc bon, les résultats sont satisfaisants. On a deux promotions. On avait un bac pro expérimental en SEN depuis plusieures années. Au niveau des résultats, les résultats sont globalement satisfaisants puisque c'est entre 90 et 100%, mais on n'a pas de comparatif. Alors au niveau de la représentation des élèves, donc de cette filière pro, bon, sur la filière pro elle-même, bon, vous connaissez tous les raisons du choix des élèves. Hein, sur alors le mot concret revient de manière récurrente, ne pas rester assis, être en activité. Avoir un objectif, apprendre un métier, moins d'enseignement général, ou le choix d'un métier. Donc ça, c'est des discours récurrents des élèves. Sur la question, j'ai posé, avant de venir ici, les semaines précédentes, la question à des classes sur quelle était leur image du bac pro. Est-ce qu'ils considéraient le bac pro comme un bac comme les autres ? Alors la réponse, elle est un peu ambivalente. Pour parodier le mot de Coluche sur l'égalité, hein, tous les bacs se valent, mais il y en a qui valent plus que d'autres. Donc c'est vrai que dans leur imaginaire, bon, c'est vrai que c'est un bac, mais on leur dit tellement autour d'eux qu'il y a des bacs qui sont plus prestigieux qu'en définitive, la reconnaissance, hein, qui est un des objectifs de cette réforme, bon, elle est réelle, mais elle est relative quand même. Sur la question des enseignants, donc on a fait un certain nombre de réunions dans l'établissement depuis 2-3 ans, aussi bien au niveau disciplinaire qu'au niveau général. Donc l'essentiel du travail a quand même porté sur les nouveaux programmes. Mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas sûr que le sens général de la réforme soit assez clair pour tout le monde, ou au moins fasse l'objet d'un consensus. Il apparaît pas vraiment pour tous les enseignants, je dis pas pour chaque enseignant, mais pour tous les enseignants, que la réforme cherche à revaloriser la voie professionnelle. On a le sentiment plutôt qu'on a cherché à faire des économies. Et l'élévation du niveau de qualification est au moins discutée par les enseignants, qui regrettent pour un certain nombre le palier BEP. Donc pour un certain nombre d'enseignants, effectivement, ces 4 ans étaient bien nécessaires. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, et je crois que ça a été aussi évoqué dans le cadre du débat sur la refondation. Là, je vous lis un petit témoignage d'un professeur de lettres qui est très expérimenté, qui est en même temps formateur d'ailleurs. En fait, nous sommes passés d'un format un peu confortable à un format tendu pour davantage d'acquisition en lettres histoire, puisque le programme est beaucoup plus ambitieux qu'auparavant en termes de problématiques, de réflexion à la limite de la réflexion philosophique. Alors, les élèves que nous accueillons à l'issue de la troisième sont toujours les mêmes. Peu d'appétence pour l'enseignement général, difficulté à lire un livre entier pour la plupart, expression écrite difficile, expression orale approximative, manque de vocabulaire, technique d'analyse pratiquement inexistante, 20% de 10. Difficulté à prendre des notes et à prendre un cours. Donc c'est vrai que ça reflète un peu le sentiment un petit peu général d'un certain nombre d'enseignants, en disant les exigences, notamment en lettres histoire, mais aussi peut-être dans d'autres matières, ont semble-t-il monté, et en même temps les élèves n'ont pas changé, et on est en phase de difficultés. Est-ce qu'on pouvait faire en 4 ans? Maintenant il faut le faire en 3 ans. D'où l'idée, d'ailleurs, c'était la remarque de cette enseignante qui a participé à un voyage en Finlande, fameux système éducatif finlandais. Nous étions une dizaine à aller en Finlande pour essayer d'approcher ce système éducatif. D'où l'idée du système finlandais sous forme d'unité capitalisable. Donc, qui serait peut-être plus pertinent pour nos élèves. Au niveau des maths sciences, je le cite aussi, il y a des changements majeurs qui sont notés, qui sont considérés comme positifs. Notamment une progression en spirale, donc qui est jugée comme intéressante. Une démarche d'investigation qui est beaucoup plus marquée. Et puis l'utilisation obligatoire des TICE, hein, pour l'apprentissage et pour la validation des CCF. Par contre, pour certains, le niveau en maths sciences est moins exigeant, et le niveau en maths, pardon, est moins exigeant, et le niveau en sciences, enfin, le programme de sciences est beaucoup plus développé, donc ne peut être abordé que superficiellement. Un témoignage aussi au niveau du technique industriel. On a un bac pro qui s'appelle TCI, technicien chaudronnier industriel. Donc le sentiment l'analyse plutôt des enseignants, de l'équipe enseignante, c'est que les compétences et les savoirs n'ont pas fondamentalement varié. Le métier n'a pas été réinventé, le degré d'acquisition est par contre revu à la baisse. Par contre, il est noté, comme ça a été noté tout à l'heure, je crois, par Monsieur Michel, que l'objectif est bien de dégager des solutions de conception et de réalisation au niveau de ce bac pro. Donc on part d'un thème, donc on a une vision, j'allais dire, de la technique qui est moins parcellaire, qui est plus globale. Par contre, et je sens que chez un certain nombre d'enseignants de l'établissement, que le fait que la formation s'éloigne d'un apprentissage des gestes et des techniques, est perçu par certains comme regrettable. On n'apprend plus à travailler de manière traditionnelle aux élèves, ou on apprend moins à travailler. Par contre, je pense aussi à la réflexion d'une autre équipe, qui est l'équipe d'un bac pro qui s'appelle AEA, Agencement de l'espace architectural, où là, il y a une refonte, très très importante. C'est un nouveau bac pro qui se met en place. La première session aura lieu l'année prochaine. Donc il y a une refonte globale de l'enseignement professionnel, avec une vision au contraire complètement liée de l'ensemble de la formation technique, à la fois théorique et pratique. Et donc ça, c'est considéré comme un plus, alors que dans les pratiques anciennes, on découpait du dessin, de la technologie, de l'atelier, etc. Donc tout ça est considéré comme un plus, comme quelque chose de valorisant. Sur les PFMP, tout a été dit, donc je ne vais pas en parler. Pour nous, dans l'industriel, il y a bien évidemment les questions de dérogation de travail sur machines dangereuses. Donc c'est évidemment dramatique, puisque même pour la formation de base en seconde professionnelle, il y a des élèves qui ne peuvent même pas travailler dans l'établissement sur des machines. Donc là, il y a une aberration, et je me demande pourquoi, depuis des années, il n'y a pas une réflexion entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale là-dessus. Donc, j'ai du mal à comprendre. Donc, on note bien évidemment les grandes différences d'une entreprise à l'autre. On note également la difficulté dans certaines entreprises de comprendre et d'intégrer une logique scolaire, une logique de compétences. Donc, c'est vrai que là aussi, je ne sais pas, c'est évidemment très compliqué, mais on a l'impression que les décisions qui se prennent au niveau national avec les entreprises ne sont pas forcément vécues de la même façon sur le terrain. C'est-à-dire que les entreprises, petites entreprises industrielles en particulier, qui sont dans une urgence permanente, ont du mal finalement à suivre, à entrer dans cette logique de compétences et à suivre de façon efficace les élèves. En tous les cas, le poids des PFMP est jugé très excessif par rapport au reste de la formation. Donc il n'y a plus que 3 ans et il y a 22 semaines. Alors c'est vrai que l'idée que les PFMP sont une formation à part entière au niveau industriel ou au niveau professionnel n'est pas forcément encore intégrée. À mon avis, la grosse question qui se pose par rapport au PFMP, c'est la question du lien et de l'articulation entre l'enseignement qui a lieu dans l'établissement et puis la réalité de l'entreprise. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. En tous les cas, je pense qu'il faut poursuivre et approfondir la réflexion dans ce domaine-là. Sur la paix, on avait déjà parlé dans le colloque de l'année dernière. La paix, c'est très bien, mais c'est vrai que les moyens paraissent dérisoires par rapport aux besoins. 2 heures par classe, avec la question, est-ce que c'est 2 heures par classe, est-ce que c'est 2 heures par élève? Question qui n'a jamais été tranchée, à mon sens. 2 heures par classe, c'est ridiculement faible par rapport aux besoins de nos élèves qui sont souvent en difficulté. Mais là aussi, il y a la même problématique, à mon sens. Est-ce qu'on est dans un accompagnement qu'on pourrait qualifier de sparadrap, ou est-ce qu'il y a une véritable articulation entre l'enseignement et puis les pratiques d'accompagnement? Sur le GLS, on essaye, nous, d'entrer dans cette démarche-là. En particulier, il y a des choses intéressantes qui sont faites au niveau de... On a choisi des thèmes à chaque niveau de formation. En particulier, un travail intéressant qui se fait entre les arts appliqués et puis les enseignants techniques au niveau de la première pro. Pour les CCF, tout a été dit aussi, sur le principe et sur la philosophie, c'est très intéressant. Dans la réalité, c'est chronophage. L'organisation et la passation des CCF demandent beaucoup trop de temps au détriment de l'enseignement proprement dit. Les élèves, par contre, semblent plutôt apprécier donc le CCF, parce qu'il y a moins de stress que pour des épreuves ponctuelles réalisées en fin d'année scolaire. Ouais. Et puis parce que les profs, me disent-ils, nous connaissent mieux. Ce qui d'ailleurs est considéré aussi comme dangereux. Voilà. C'est à la fois une chance et ça peut être aussi un danger selon l'image que... Enfin non, les profs sont pas comme ça, pardon. Sur la question du BTS, ce qui paraît clair pour moi dans notre établissement, c'est que la perspective pour le lycéen professionnel de poursuivre sa formation en BTS est maintenant intégrée. C'est-à-dire la majeure partie des élèves qu'on accueille dans l'établissement ont déjà cette idée d'aller vers un BTS. C'est pas forcément un projet ou quelque chose de très construit, mais ils aimeraient bien continuer, et donc ça, c'est majoritaire. Par contre, comme ça a été dit également tout à l'heure, il y a une concurrence dans l'établissement puisque nous avons la voie technologique et la voie professionnelle. Donc, voilà, qu'en sera-t-il de la voie technologique industrielle ? Alors, on nous dit que la voie technologique industrielle sera plus orientée sur des DUT, voire des classes préparatoires. Mais comme le public de la voie technologique industrielle ne change pas, il n'est pas évident que ce soit aussi clair que ça. Au niveau des passerelles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, nous avions, du fait de l'organisation dont je parlais tout à l'heure, une tradition de passerelles systématique, puisque tous nos élèves de terminale BEP passaient en première adaptation, ou quasiment tous, hein, 90%. On a continué à proposer des passerelles dans le sens pro-techno, et en 3 ans, ça a été une dégringolade totale. On est passé de 20 élèves qui étaient en seconde pro et en première pro et qui passaient en première STI à 10, puis à 5 cette année, probablement. Donc c'est une dégringolade totale. Par contre, on reste ouvert, enfin, selon les équipes, il y a des équipes qui sont plus ouvertes que d'autres. On a effectivement un certain nombre d'élèves qui, dans le sens inverse, passent de seconde GT à première pro, ce qui n'est pas sans problème dans des métiers comme les nôtres. Parce qu'il y a certaines équipes professionnelles qui freinent des quatre fers en disant ils n'ont pas les gestes de base, ils n'ont pas les savoir-faire de base acquis en seconde professionnelle, donc c'est difficile de les intégrer en première pro. Par contre, il y a des équipes qui jouent bien le jeu et on accueille des élèves de seconde, de première. On a même accueilli récemment un élève qui a commencé une terminale S, qui se retrouve en première pro chaudronnerie. Donc il y a des expériences qui sont plutôt positives dans cette logique des parcours dont on parlait tout à l'heure. Au niveau de l'accueil en BTS, puisqu'on a des BTS, on a un certain recul historique, mais qui, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas significatif par rapport à la situation actuelle. Si je prends par exemple le BTS électrotechnique, il y a une classe d'une trentaine d'élèves, on a accueilli depuis 2003 19 élèves bacheliers professionnels sur 200. Donc c'est effectivement très peu. Je dis 19, c'est 17. Et sur les 17, 15 ont réussi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme on l'évoquait, il y avait une sélection effectivement très très forte. À l'heure actuelle, donc, les données vont être différentes, puisque dans nos BTS industriels, on aura à la fois du bac pro et du bac techno industriel. Mais les bacs techno, le bac STI 2D que certains connaissent peut-être, STI 2D ça veut dire sciences et technologies pour l'industrie et le développement durable, est un bac qui s'est beaucoup déprofessionnalisé, qui est devenu beaucoup plus théorique. Et peut-être que dans les classes de BTS, on aura, j'allais dire, plus d'ouverture de fait pour les bacheliers professionnels. À signaler qu'on a mis en place une expérimentation terminale Pro B, c'est-à-dire que l'année dernière, l'équipe pédagogique a demandé aux élèves s'ils étaient favorables à ce qu'on divise la classe en 2 groupes d'intérêt. Un groupe qui est composé d'élèves qui voudraient aller vers les BTS de façon certaine et un groupe qui serait plus orienté sur la vie active. Donc l'ensemble de la classe, les élèves de la classe ont été favorables. Les élèves ont choisi, donc on a fait 2 groupes. Alors les 2 groupes fonctionnent comment ? Ils ne fonctionnent pas sur les cours en classe entière, ils fonctionnent uniquement sur les TD et ils fonctionnent au moment des PFMP, puisque nous on a fait le choix, comme peut-être certains établissements, lors des PFMP, de diviser la classe en 2, c'est-à-dire la moitié de la classe part en PFMP et l'autre reste au lycée et inversement. Donc il y a eu quelques changements en cours d'année, ça a été plutôt positif pour le groupe BTS puisqu'il y avait un effet d'entraînement, un peu moins pour l'autre groupe, mais en définitive, au conseil de classe qui a eu lieu donc il y a quelques temps, nous avons quand même 85% des élèves qui demandent le BTS. Donc une grande majorité des élèves qui demandent le BTS. Et une réflexion en cours des professeurs de BTS sur l'accueil des bacheliers pro. C'est à peu près tout. J'ai une remarque par rapport à l'autonomie de l'élève, à l'autonomie de l'établissement, pardon.
Rapide.
En deux mots, c'est vrai que les nouveaux dispositifs permettent une certaine liberté pédagogique, l'AP, le GLS, etc. Par contre, au niveau des PFMP, on n'a pas ou très peu de liberté pédagogique. À savoir que dans certaines filières professionnelles, on nous impose une organisation des PFMP particulièrement rigide à laquelle nous n'avons pas le droit de déroger.
Merci. Merci pour votre intervention et la rapidité de la dernière. Quelques réactions ? La parole est à la salle.
Donc Benoît Duménie, formateur UFM de Créteil, mais aussi PLP Lettres Histoire. Donc une première question pour Monsieur Abezouache. Vous avez précisé qu'il y a eu une réécriture des programmes d'histoire-géographie en CAP en 2012.
Une réactualisation.
Une réactualisation.
En 2010.
Oui, pour
2012, c'est troisième prépa pro.
Oui, excusez-moi. Justement, pour pouvoir articuler le passage CAP bac professionnel. Or, aujourd'hui, avec ce diplôme intermédiaire, il y a un vrai souci, puisque quelque part, des élèves qui seraient en terminale CAP vont, en quelque sorte, traiter le programme d'histoire-géographie de la classe de première. Et les élèves qui passent de CAP à seconde pro, là, il y a une vraie question.
C'est intéressant ce que vous dites, mais justement, ces programmes sont pensés, puisque de toute façon, ils sont pensés dans un cadre global, depuis le primaire jusqu'au secondaire, et ils sont organisés de manière à ce qu'un certain nombre de points soient abordés à certains niveaux et soient réactivés ou abordés différemment à d'autres niveaux. Donc pour ce qui est de l'articulation entre le CAP, la certification intermédiaire, etc., le bac professionnel, c'est l'approche qui est différente, si vous voulez. C'est la problématique qui est différente. On n'est pas dans un enseignement du même type. On ne travaille pas les mêmes connaissances, les mêmes compétences en CAP et en bac professionnel. La certification étant différente, et puis les programmes étant beaucoup moins riches, puisque en CAP, comme vous le savez, un certain nombre de sujets d'études n'apparaissent pas, qui apparaissent en bac professionnel. Mais c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut travailler. Si vous voulez, de manière schématique, on peut dire il y a approfondissement d'un certain nombre de choses qui ont été vues auparavant, avec un changement d'échelle, avec une complexité qui est supérieure. Et de cette manière, justement, la logique qui est celle de cette articulation, enfin de l'écriture des programmes, apparaît beaucoup plus clairement. Et d'ailleurs, en formation dans l'académie, on insiste là-dessus. Lorsqu'on fait une formation sur tel ou tel point, j'aime beaucoup travailler sur tel sujet d'étude et essayer de réfléchir avec les enseignants, avec les formateurs, avec les enseignants, sur la manière dont on va aborder le sujet d'étude en CAP et la façon dont on l'abordera en bac professionnel, qui est quand même différente. La nature des documents qu'on peut exploiter est différente. Mais évidemment qu'il y a des choses qui sont... On dit d'ailleurs, je crois, vaut mieux. Alors, d'où l'importance en début d'année, mais bon, là, nous entrons dans une cuisine disciplinaire, d'où l'importance en début d'année de prendre le temps d'expliciter les programmes, les démarches, etc. Puisque la question que vous posez se pose aussi entre le collège, puisqu'un certain nombre de choses sont faites en quatrième ou en cinquième, qui sont faites à nouveau au bac professionnel. Donc les élèves, évidemment, ils peuvent avoir l'impression d'une redite. Mais c'est là qu'est le sens de l'explicitation du professeur en début d'année et en termes de connaissances. Et en termes des pratiques, des apprentissages sur lesquels on va travailler plus systématiquement. C'est comme ça qu'on peut faire percevoir différemment ces programmes aux élèves.
Dominique Vassal, inspectrice économie-gestion. Monsieur Jabot, je voudrais d'abord clarifier quelque chose que vous avez dit avant de poursuivre mon propos concernant la passerelle entre les secondes professionnelles et la voie technologique aujourd'hui dans votre établissement. Vous avez bien dit qu'il y en avait moins, beaucoup moins qu'avant, et vous nous avez présenté votre établissement antérieurement comme n'ayant pas de bac pro. Du coup, ça interroge l'accompagnement des élèves dans leur orientation, puisqu'au sein du même établissement, quand il n'y avait pas de bac pro, il y avait une orientation massive vers la voie technologique, et ça ne semble plus être le cas aujourd'hui.
Oui, parce que maintenant, on a... Bon, auparavant, donc, les élèves qui rentraient en seconde professionnelle rentraient dans la perspective d'aller en 4 ans sur un bac technologique. Donc c'était clair dès le départ. À l'heure actuelle, on a deux recrutements, recrutement seconde professionnelle, recrutement seconde générale et technologique. Mais je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le fait que maintenant, les élèves savent qu'avec un bac pro, ils peuvent intégrer un BTS, je pense qu'il y a moins d'attractivité pour la voie technologique dans la mesure où ils savent bien qu'elle sera plus difficile pour eux.
Parce qu'on peut aussi penser que quand l'offre est dans l'établissement, les choses se jouent différemment et que ça pourrait donner l'idée de vraiment faire travailler ensemble les enseignants du lycée professionnel et lycée technologique pour vraiment accompagner l'élève et enfin être plus centré sur l'élève, quoi.
C'est effectivement le cas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bac technologique industriel, le fameux bac STI 2D, vient d'être réformé complètement. On est passé d'un bac STI qui avait encore une partie professionnelle. Hein, il y avait encore un peu des activités qu'on appelle d'atelier. Alors que le nouveau bac STI 2D est complètement séparé et distingué des bacs professionnels industriels. Donc là, on a une approche sur le bac STI 2D qui est beaucoup plus théorique, hein, et qui, je pense, avec des exigences dans le domaine scientifique qui sont plus fortes, donc qui attire un peu moins les élèves, quoi.
Donc c'est ce qui peut expliquer ça. Merci.
Bonjour, je suis Fabienne Kinet, formatrice à l'UFM de Caen et aussi PLP éco-gestion. Je pense que une des réussites de cette, on pourrait dire que cette réforme sera réussie si nos élèves réussissent dans l'enseignement supérieur, en BTS notamment. On voit bien que ça va être difficile pour eux de franchir cette marche qui va être importante pour réussir en BTS. Ils sont nombreux d'ailleurs à vouloir y aller, vous venez de le dire. Quelle réflexion nous on pourrait avoir en lycée professionnel pour les accompagner et les préparer à réussir en BTS? Est-ce qu'on pourrait pas envisager une année supplémentaire en lycée professionnel pour les préparer justement à ces maîtrises de compétences qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront pas à la fin du lycée professionnel?
Il me semble que le système a toujours été relativement réticent à ajouter des années supplémentaires, non?
Alain Brugnas, IEN Anglais Lettres, Académie d'Aix-Marseille. Juste une petite réaction par rapport à cette année supplémentaire que vous réclamez. J'ai déjà entendu des enseignants aussi le proposer. Alors, il nous semble, suite aux visites, hein, nous avons fait des bilans d'évaluation sur la rénovation de la voie professionnelle par le biais d'inspections d'équipes à plusieurs inspecteurs. Nous inspectons sur 2 jours une classe. Et puis nous vivons avec la classe pendant ces 2 jours et nous avons peut-être un champ de vision plus précis sur ce qui s'y passe. Et alors, moi je dirais comme réaction, comme ça un petit peu à chaud, qu'il faut davantage travailler le niveau d'ambition du niveau 4 exigé dans la voie professionnelle plutôt que d'ajouter une année supplémentaire. Alors, je ne sais pas si c'est le diplôme intermédiaire qui fait que certains enseignants s'attachent beaucoup trop à ce diplôme BEP, enfin, les deux premières rénovées, hein, les 2 premières années, mais nous ne sommes pas, et là je ne parle pas que dans ma discipline, puisque par le biais de ces inspections que l'on appelle inspections concertées, nous voyons toutes les disciplines à plusieurs inspecteurs. Je fais aussi bien des maths que de l'enseignement professionnel, que de l'éco-gestion. Bon. Et nous ne sommes pas, enfin, trop souvent, nous ne sommes pas dans le niveau 4 et nous sommes dans le classement, le repérage, le questionnement fermé. Nous ne sommes pas dans les qualités rédactionnelles, dans l'analyse qui sont attendues au niveau 5. Voilà. Donc, pour nous, au niveau 4, pardon, ça serait surtout un défi de relever un petit peu dans les pratiques des enseignants cette ambition dès le départ, dès la seconde, vers le niveau 4. Voilà.
Si je puis me permettre, je prends la parole. Oui, simplement, votre question, en fait, pose aussi celle qui est apparue en filigrane dans différentes interventions, c'est celle de l'optimisation aussi des dispositifs qui ont été mis en place et je crois nous avons parlé de l'EGLS, des ateliers rédactionnels, de cette collaboration. Enfin, c'est une piste, en fait, cette co-animation, en tout cas ce travail collaboratif entre les enseignants d'enseignement professionnel et d'enseignement général. Je pense que c'est une piste vraiment à développer. Et ces dispositifs-là sont aussi prévus pour justement accompagner l'élève dans un parcours un peu plus ambitieux, ou quel que soit le terme que l'on utilise. Et pour l'heure, alors évidemment, bilan sera fait dans l'académie un peu plus tard, mais pour l'heure, il nous semble quand même que ces dispositifs peuvent être optimisés dans ce sens-là. C'est vrai pour le GLS, dont on n'attend pas forcément cela, mais en aussi cela, c'est vrai aussi de l'accompagnement personnalisé.
Je voulais rajouter quelque chose à ce propos. Oui, c'est vrai que, par exemple, nous, en AP, on essaye de préparer un petit peu nos élèves au BTS, mais c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant encore. Hein. Peut-être que c'est justement ces AP qui pourraient être optimisés, justement, pour leur permettre d'être un peu mieux préparés au BTS, ou au moins une partie de nos élèves, ceux qui sont le plus susceptibles de réussir en BTS.
Candice Genettine en lettres histoire, je travaille à Oulin, au Jacquard, et je voulais juste, par rapport à M. Javot, vous avez dit qu'il y a moins de stress quand on a on doit faire une épreuve ponctuelle. Effectivement, durant l'année, on a moins de stress quand on sait qu'on n'a pas organisé un CCF en bac pro en histoire géo. Par contre, il y a énormément de stress dans la méthodologie, la préparation de l'examen, mettre l'élève en situation d'examen. Et je trouve que c'est ça qui est très important, justement. Parce que moi, ce que je remarque avec les collègues qui ont des CCF à préparer dans les autres matières, c'est que ils ne pensent qu'au CCF. Toute l'année, on n'entend parler que de CCF. Et c'est vraiment cette idée d'urgence qui est un petit peu négative dans cette réforme avec le CCF. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de montrer à l'élève de la méthodologie. Et voilà, c'était juste cette remarque-là.
On est bien d'accord. Je parlais du stress des élèves par rapport aux épreuves.
Ah bon, à part moi, je pensais que c'était le stress du prof.
Mais le stress des enseignants, ça, on l'a.
Oui, voilà.
On l'a en permanence.
Et du coup, la conséquence, moi, je la vois comme ça, c'est la qualité des, enfin, l'élève. On passe moins de temps à lui enseigner de la méthodologie, et donc il va avoir moins de qualité. Enfin, je veux dire, ça rejoint un peu. L'idée des décrochages, du décrochage, parce que l'élève a moins envie de rester en classe, si lui aussi ressent cette urgence. Qu'on retrouve des élèves avec des dossiers à faire, des trucs, ils n'ont pas la méthodologie. Enfin, je pense en éco-droit, par exemple, ça touche la méthodologie du français, la problématique, étudier des documents, faire une synthèse, et il n'a pas cette méthodologie. Enfin, je veux dire, c'est un constat. Hein.
Non, mais ce qui a été dit tout à l'heure par M. Michel sur le lien entre formation et évaluation interroge, quoi. Parce que c'est vrai que on est dans la formation, donc il faut faire de l'évaluation, mais l'évaluation prend trop de temps par rapport à la formation, et comment on articule les deux? Parce que l'esprit du CCF, si j'ai bien compris, c'est quand même aussi ça. Les professeurs sont censés pouvoir évaluer un élève à n'importe quel moment, à partir du moment où il a effectivement acquis les compétences. Certains disent c'est pas sérieux d'ailleurs. Des profs disent c'est pas sérieux, ça veut dire que tout le monde aura le diplôme, ce qui est jugé par certains profs comme catastrophique. Donc c'est sûr que comment relier, mais ça c'est un travail de formation énorme, ça. Comment relier davantage les temps de formation et les temps d'enseignement au temps d'évaluation, quoi. Comment pas en faire deux temps séparés, quoi. Parce que s'il y a deux temps séparés, il y en a un qui bouffe l'autre, quoi. Et en plus, avec 22 semaines de stage en entreprise, donc 28 semaines de présence des élèves dans l'établissement, c'est une course.
Je voulais intervenir par rapport à ce qui avait été dit. Par rapport au niveau que vous avez jugé qui n'était pas du niveau 4, est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de l'approche par compétence? Est-ce que c'est juste une question de savoir ou de connaissance? Et moins une prise en compte de la part méthodologique, parce que c'est le côté méthodologique aussi qui fait défaut aux élèves pour accéder dans les études supérieures. Donc, avec une approche plus centrée sur les compétences, est-ce que ce constat, vous le décririez aussi pareil? Enfin, c'est en termes de niveau de connaissance ou de démarche, de méthodologie, d'approche, parce que ça renvoie aussi à... On est sur une transformation du métier et des façons de faire avec les élèves.
Je disais qu'on est encore un petit peu trop centré sur ces pratiques que l'on avait en BEP. Et alors, il faut être optimiste, hein, parce que je suis d'accord avec le collègue de lettres qui disait que les pratiques évoluaient chez les enseignants. Hein, bien évidemment, je suis très optimiste, mais on a encore beaucoup de travail à faire, je crois, de ce côté-là. C'est notre travail d'accompagner les équipes dans ce sens.
Oui, je voulais juste quand même mettre un petit peu en garde quand même sur cette ambition de poursuite en BTS qui est en train d'irradier le système. les professeurs, certains chefs d'établissement, et on en constate tous les jours les dégâts. On rencontre actuellement des élèves qui vous disent ce qui nous plairait déjà bien, c'est le bac. Ce serait déjà bien. Mais comme je suis dans un établissement où on ne parle, et mes professeurs ne parlent que de la poursuite en BTS, je suis en classe de seconde et de première, je suis en train de bosser un examen qui vaut déjà plus rien parce qu'on me projette en BTS, j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc on est en train de placer des élèves en porte-à-faux. Et il faut faire très 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 attention à ça. Je crois qu'il un objectif pour un jeune qu'on veut accompagner, si on veut l'accompagner, c'est son baccalauréat. C'est son baccalauréat. Et qu'on commence pas à vendre, à travailler en différé, en disant oui, on travaille le bac, mais c'est le BTS qui est intéressant. Parce que ça nous interpelle, nous, parce qu'on est parents, parce qu'on est des CSP plus, parce qu'on a des enfants et on a des projets éducatifs. Ça va très bien pour nous. Mais il faut savoir qu'effectivement, pour certains jeunes, en cohérence d'ailleurs avec leur famille, le baccalauréat est très bien s'ils trouvent un petit boulot, et enfin même un petit boulot, qui revient, etc. Bref, avec des parcours un peu plus moins linéaires que ceux que nous, on a en vue pour nos gamins, pour nos propres enfants, ça marche aussi bien. Donc il faut faire très attention, je crois, sur cette poursuite en BTS. On est en train, je crois, d'être sur un détonateur. Et alors, pour le coup, j'ai rencontré aussi des établissements où c'est porté par l'établissement. Ça veut dire qu'on a des chefs d'établissement qui veulent, et c'est pas le cas ici, évidemment, mais qui veulent valoriser leur établissement en disant « moi, je ne prendrai que des élèves qui iront en BTS ». J'en ai rencontré un la semaine dernière, c'est pas du tout ici d'ailleurs, mais... Et donc, on a une espèce de culture d'établissement autour de la poursuite en BTS. Tous les professeurs sont engagés là-dedans, sauf que quand on rencontre les gamins, ils disent « moi, je suis dans un truc qui est insupportable ». Et la deuxième chose aussi, c'est, mais qu'est-ce qui fait réussir en BTS ou pas? C'est une boîte noire, ça. C'est une boîte noire, ce truc-là. On ne sait pas, à l'heure actuelle, on a bien des présomptions, des faisceaux, qui nous disent, oui, c'est ça qui va faire réussir en BTS. Je vous ai d'abord dit tout à l'heure, l'appareillage bac-BTS, 80 BTS, une centaine de bacs. Je suis sûr que réussir dans le BTS chaudronnerie, le BTS assistant manager, ça n'a... Enfin, il y a des points, des invariants, mais il y a aussi des grosses différences. Et là-dessus, il faut pouvoir les traiter avec des élèves quand on veut leur promettre de réussir en BTS. Est-ce qu'on a tous les outils? Est-ce qu'on a la clarté, la lisibilité des atouts? Par exemple, il y a l'espèce d'idée de dire on va mettre de l'enseignement général encore plus haute dose pour qu'ils réussissent après. Cette espèce d'idée de représentation qu'on a, mais qui doit être démontrée. À mon avis, ça doit être démontré. Alors, heureusement, il y a nos chercheurs qui vont le faire. Mais il faut le démontrer, ça. Par exemple, on entend parler, on le dira bien cet après-midi, mais les compétences rédactionnelles aussi. Ça aussi, ça interroge. On a l'impression que plus on écrit, plus on va réussir. Peut-être. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Si on est quand même dans une logique de professionnalisation, interrogez quand même les métiers qu'il y a autour de vous. Enfin, interrogeons les métiers. L'écrit, au sens où on l'entend, nous, rédactionnel, et pas forcément sous cette forme-là. Y a des métiers où on n'écrit pratiquement pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler rédactionnel, mais les exigences professionnelles ne sont pas les mêmes vis-à-vis des compétences rédactionnelles. Moi, si je l'ai fait en gestion administration, c'est parce que d'abord, des professionnels sont venus me dire qu'ils écrivaient beaucoup et qu'ils étaient les garants des qualités des écrits qui sortaient de l'entreprise. Donc à partir de là, on s'est dit « Ok, on met les moyens ». Pour le travailler, mais c'est peut-être pas le cas, la même chose pour des vendeurs, pour d'autres, etc. Donc je trouve que l'ancrage dans la profession est important pour se dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend pour nos élèves. Autre point aussi qu'on entend sur l'enseignement supérieur, c'est dire il faut développer le travail personnel. Et souvent on dit développer le travail à la maison, et ça pose un vrai problème chez les gamins de lycée pro, c'est évident, mais aussi ailleurs, hein, en voie technologique et aussi en L, hein, rassurez-vous là-dessus, c'est un vrai problème là-dessus. Or, le travail personnel, effectivement, peut être développé dans l'établissement. Les CDI doivent être les nerfs de la guerre, on le sait. Que les établissements qui ont des CDI qui fonctionnent magnifiquement bien, il y a des vrais travaux qui se font, et c'est des espaces personnels pour les élèves. C'est pas forcément chez eux, dans le coin de table, etc. Donc, il faut faire très très attention, à mon avis, sur cette question de la poursuite, effectivement, en BTS. Occupons-nous aussi de ce qu'on sait très bien faire dans l'enseignement pro, dans le secondaire pro. Et il faut reconnaître que l'enseignement pro en France est très valorisé à l'extérieur. On sait très bien qu'on forme très bien au niveau 4 en France. Il faut le savoir aussi. Hein, et niveau 3 aussi. Même si les BTS sont en dehors des LMD, etc., les voisins européens regardent à la fois les BTS, mais aussi les niveaux 4, avec beaucoup d'attention, parce que c'est un enseignement qui marche bien aussi. Il faut aussi le dire de temps en temps.
Merci. Ce que j'allais vous dire, peut-être qu'il faudrait aussi le faire savoir au niveau des médias, parce que c'est pas ce qui ressort... Non, dans l'éditorial du Monde, c'est pas du tout ce qui est renvoyé... à l'extérieur. Non, mais c'était juste une aparté. Mais...
Alors, une question très brève. Une question qui se pose aussi, c'est l'orientation des élèves en fin de troisième entre soit le CAP, soit le bac professionnel. Et avec la mise en place de la réforme, on a vu que pas beaucoup de collègues de collège disaient conseiller à leurs élèves de faire des bacs plutôt que des CAP. Et je pense qu'un des problèmes pour les collègues, notamment... Qui sont soucieux d'être dans la remédiation, qui avaient des habitudes de travail avec les élèves de CAP par rapport à ça, sont un peu perdus en bac. Voilà. Donc, quelle articulation ou comment se débrouiller avec cette orientation CAP-BAC ?
En fait, j'aurais deux petites remarques. La première remarque, c'est tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé, c'est monsieur, je crois, qui parlait de la démarche traditionnelle par rapport au travail des enseignants. Alors moi, je me posais la question, si on est dans la rupture avec la tradition, pourquoi ne pas, parce que moi j'entends parler depuis que je suis étudiant, depuis que je suis lycéen, pourquoi ne pas enlever les notes et noter par compétence tout simplement ? Ça peut être une première chose. Voilà. Et la deuxième chose que je souhaitais rajouter à monsieur Michel, dont j'ai beaucoup aimé l'exposé sur l'après-bac pro, vous avez parlé de l'enseignement général. Moi, je tiens à dire que si on rajoutait une heure ou deux d'enseignement général, ça ne me gênerait absolument pas, quitte à les faire gratuites. Hein. Pourquoi ? Parce que je trouve important pour des élèves de lycée pro qui sont souvent en mal d'école républicaine, de leur inculquer de la culture générale, parce que le français, c'est pas que de l'écrit. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai des élèves de bac pro qui sont en grande difficulté, et par contre, ils sont, même s'ils sont pas forcément en demande, ils aiment qu'on leur, qu'on les cultive tout simplement.
Merci sur cette belle remarque. Nous allons clore les travaux de cette matinée.